J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sylvie Matera. Bonjour. Merci Sylvie, senior advisor au cabinet de conseil et d'audit Mazars. À vos côtés, Frédéric Farah. Professeur Farah, bonjour.
Bonjour.
Économiste et professeur à l'Université Paris 1. Et face à vous, j'ai le plaisir d'accueillir Marcus Kerber. Professeur Kerber, bonjour Marcus. Bonjour. Avocat, professeur de finances publiques à Berlin. Bienvenue à tous les trois. Le premier sujet du jour, je vous le disais, c'est la polémique qui enfle entre le patronat et le gouvernement. Le gouvernement qui cherche à faire quelques économies pour tenir la trajectoire de déficit cette année. On sait que la crise du Moyen-Orient a un impact. 6 milliards d'euros, l'exécutif l'a d'ores et déjà annoncé. On attend désormais le détail de ces 6 milliards d'économies pour compenser tout ça. Parmi les pistes, 1 milliard et demi de coups de rabot sur les allègements de charges. Évidemment, les organisations patronales sont vent debout. Il y avait un conseil des entreprises qui se tenait jeudi dernier à Bercy. Allez, je commence avec vous, Sylvie. Est-ce qu'il faut raboter ces charges comme le prévoit le gouvernement? Je le rappelais en introduction de cette émission, on est quand même passé de 50 à plus de 80 milliards d'euros de factures avec ces allègements de charges.
Certes, mais en fait, le problème, c'est de trouver des fonds supplémentaires compte tenu des dérapages potentiels liés à la situation géopolitique. Maintenant, faut-il les trouver auprès des entreprises? Moi, je ne crois pas. Je pense que une problématique de compétitivité des entreprises françaises est très importante. Et il faut voir de la situation actuelle par comparaison à nos partenaires. Les entreprises françaises sont lourdement chargées par rapport à leurs principaux compétiteurs. Oui. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller chercher de l'argent là.
Parce que l'idée, c'est... Alors, il faut expliquer, c'est un tantinet technique. On a essayé de le faire hier sur l'antenne. Moi-même, ce matin, je rappelle que le 1er juin, le SMIC sera augmenté d'à peu près 2% puisqu'il est indexé sur l'inflation. Et le mécanisme des allègements de charges sur les bas salaires qui vont jusqu'à 3 SMIC sont eux-mêmes indexés automatiquement sur le SMIC et que donc, quand on augmente le SMIC, c'est toute la chaîne des allègements généraux qui est renchérie jusqu'à 3 SMIC. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui paye un salarié jusqu'à 5 500 € brut va voir ses allègements augmenter. Et c'est pour ça que Bercy dit « bah il y a un effet d'aubaine là, donc l'effet d'aubaine c'est 1,5 milliard, je rabote d'1,5 milliard pour tenir ma trajectoire ». Frédéric Farah, qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis un peu surpris, que, même si je comprends la position du patronat, parce que ce débat est ancien. Alors, je rappelle le rapport Bozio-Vasmer.
Oui.
Je rappelle les rapports de la Cour des comptes. Je rappelle les rapports de la Sécurité sociale. Qui nous disent, à peu près de manière consensuelle, et je ne crois pas que dans ces institutions, on peut voir des gens contre les entreprises ou que sais-je, qui nous disent, il y a eu de l'empilement, le bilan est mitigé, il y a eu des effets d'aubaine, ça a coûté de plus en plus cher, posons-nous la question sur ça. Oui. Il y a eu un débat, en plus... le rapport Bozio-Vasmer était...
On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Hein.
Voilà.
C'est vrai que... Bon,
donc, à partir de là, je comprends l'inquiétude des entreprises. Quant à la compétitivité, je rappelle le rapport Grébin sur la compétitivité par rapport à la Chine,
oui,
qui nous dit que de toutes les façons, même si on rabotait le coût du travail, l'écart avec la Chine, par exemple, est tel que... On n'arrivera jamais en utilisant...
Je ne parle pas de la Chine, je parle des autres partenaires européens. Voilà, bon, Chine, il y a des problématiques sociales qui n'ont rien à voir avec les conditions de travail en Europe. Hein.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, évidemment. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais en même temps, en fait, où je perds un peu pied dans cette affaire, parce que je me dis, normalement, les Européens... Ça devrait être nos partenaires, non? Ça devrait pas être nos concurrents.
Enfin, donc, oh, on peut être les deux, hein. Une économie ouverte en concurrence.
Je suis d'accord avec l'idée. Ce que je veux dire par là, je comprends qu'il y a une problématique de compétitivité française,
oui,
qui se joue.
Pardon, Frédéric Farah, juste, est-ce que avec 1,5 milliard de coups de rabot sur les allègements de charges, ça joue véritablement sur notre compétitivité.
Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on veut tenir ensemble deux choses. La compétitivité et tenir nos finances publiques.
Oui. Alors,
je sais pas comment on fait pour avoir les deux à la fois.
Eh oui.
J'en sais rien. Et comme aujourd'hui, effectivement, ce poste a pris tellement d'importance, bah, évidemment, le gouvernement, bah, qu'est-ce qui se passe quand il fait à la boutique? Bah, c'est le rabot, quoi. On regarde à droite, à gauche, on essaie de couper,
mais
quoi.
D'un autre côté, ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. Il y a eu un empilement.
Oui.
Donc, il faudrait peut-être un moment essayer de simplifier la situation, parce qu'autrement,
on arrive,
effectivement,
on voit que dès qu'effectivement, il y a une hausse du SMIC, ce problème se pose. Il avait été posé en 2022 et 2023, ça a créé quand même une facture qui est difficilement soutenable aujourd'hui.
Bah oui, bah oui.
Professeur Kerber,
l'invité allemand,
le point de vue de l'allemand,
observateur, parce que
sur
je vais
cette
pas
complexité française,
des affaires françaises, et cela
si
d'autant moins,
d'autant moins que
c'est une affaire vraiment française. Je vois bien les intérêts en jeu, le trésor public, la compétitivité des entreprises françaises. Je pense le problème est un problème européen. Et il faut, pour reprendre la citation ou les mots d'un illustre français, il faut viser haut pour aller loin. Et ce micmac que nous voyons, dont nous sommes témoins, ça existe dans d'autres formes en Allemagne également.
Est-ce que ça existe? C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes un grand spécialiste des finances publiques.
Nous sommes devenus les prisonniers des indexations, les prisonniers de l'état social, de l'état de la providence qui nous a été promis, proposé par des politiciens très démocratiquement élus. Et tout ceci est devenu un fléau. Et un fléau à double tranchant, deux aspects. Premièrement, parce que ça a renchéri le coût d'être du travail.
Oui.
Hein, c'est devenu... Je ne me compare pas avec la Chine, où les conditions sociales sont, disons, déplorables, non européens, on ne veut pas imiter ça.
Il n'y a pas le même modèle.
Mais le niveau du coût de travail en Europe, en Europe est insupportable. Hein. Ils mettent en péril notre compétitivité à long terme. Deuxièmement,
non, mais donc l'État, quoi, pardon social, Marcus Kerber, ça veut dire qu'il faut baisser les salaires?
Non, il faut
arrêter
baisser
les gains,
mais il faut réduire les dépenses de l'État social. Et ceci pour plusieurs raisons. Regardons le chômage, l'assurance chômage. Nous avons en Allemagne un marché de travail qui d'ailleurs n'est pas vraiment un marché.
C'est au plein emploi depuis des années.
Un ensemble réglementé où il y a 3 millions de chômeurs et partout.
3 millions de chômeurs en Allemagne.
En Allemagne. Et
on est à 3% de chômage en Allemagne.
On ne trouve toujours pas des employés pour des petits bulots dans les restaurants, dans les services. Alors c'est une situation qui ne ressemble pas vraiment au bon fonctionnement du marché de travail.
Je croyais qu'on était au plein emploi.
En faveur de discuter la suppression carrée de l'assurance chômage. Voilà. Et le deuxième aspect,
radicale.
C'est en Allemagne surtout, on attire par cet état social ou l'état de la providence une immigration non désirée et non désirable. Il y a du tourisme
avec une démographie qui baisse en Allemagne, beaucoup.
Entre l'Ukraine et l'Allemagne,
la baisse de la natalité.
Les gens qui viennent en Allemagne pour encaisser et qui font le virement en Ukraine occidentale ou qui se déplacent. On a le même phénomène avec donc les immigrés syriens. Je ne dénonce pas l'immigration en tant que telle, mais ce n'est pas une politique d'immigration de faire des cadeaux sur un plan social à tout le monde. Donc, en plus, on a, par l'état social, détruit la valeur du travail. Hein, Karl Marx disait toujours, le travail, c'est le métabolisme avec la nature, de l'homme avec la nature. Alors, tout ceci, nous sommes très loin de ça.
Je vois sceptique,
Frédéric. On considère le travail comme un mal nécessaire, et puis c'est l'État nounou qui nous fournit les moyens de...
Frédéric Farah, vous êtes d'accord avec ça?
L'État social fait partie de la décadence européenne.
Bon, un avis tranché, Frédéric Farah, je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça.
Non, c'est amusant, quand je vous entends, j'ai comme l'impression qu'il ne s'est rien passé dans les États européens entre 1980 et 2026. En fait, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on est dans un moment de l'histoire de l'État social qui court entre les années 60 et 70. Bon, alors, je rappelle que dans votre propre pays, à la fin, des années 90. Le chancelier Schröder avait estimé qu'effectivement l'Allemagne, qui était jugée l'homme malade de l'Europe à l'époque, puisque je rappelle, les excédents commerciaux, c'était nous, les déficits, c'était les Allemands, hein, je vous rappelle cet épisode.
Lointaine époque.
Oui, mais quand même, je veux dire... N'oublions pas, c'était pas au Moyen-Âge, là, dont je suis en train de parler. Je suis pas en train d'évoquer la première croisade, Godefroy de Bouillon, 1095. Bon, je veux dire, après, on peut
nous
évoquer Godefroy de Bouillon.
Jusque-là.
On va pas remonter jusque-là. Et donc, il y a eu les réformes Schröder, avec les différentes réformes, Hartz,
au début etc. des années 2000.
Bon. Et donc, il y a eu cet effort, un redimensionnement de l'État social, en tant que tel, surtout que je rappelle, sans vouloir entrer dans votre histoire, que le moment de l'ascension ou l'affirmation de l'État social allemand, c'est plutôt la période Willy Brandt, hein, c'est plutôt par là, même s'il n'a pas duré longtemps. Donc, résultat des courses, la plupart des pays européens, dans les années 90, ont fait un effort considérable, du fait de l'entrée dans l'euro, de réformer leur marché du travail, le marché des retraites, les réformes des administrations. La plupart. Donc l'État social... ce n'est pas une espèce de, comment dire, de chose qui joue contre l'économie, comme vous le dites. En plus, ça a été réformé. C'est-à-dire, le marché du travail, même en France, ça fait il y a eu des efforts en termes de flexibilisation.
Vous ne vivez pas dans la réalité.
Non, j'ai l'impression que...
L'Agence fédérale pour l'emploi, qui s'appelle comme ça, qui organise le chômage, disons-le autrement, elle comprend 114 000 fonctionnaires ou agents. Sa performance en matière d'intermédiation... de rapprochement des chômeurs avec du travail fort améliorables, hein, perfectibles.
Oui. Marcus, hein, juste à ce qu'on peut s'arrêter sur ce
sujet. Il gère un budget de 40 milliards.
Marcus Kerber.
Voilà. Je pense que tout ceci mérite réforme. Et la question principale est-ce que nos démocraties sont capables de réformer cet État social? Vous l'appelez l'État social.
Mais l'État social,
je l'appelle un fléau. C'est devenu un fléau.
Non,
ce qui était au début une bénédiction, au début du XXe siècle, est devenu un véritable fléau.
Marcus Kerber, je voulais qu'on revienne sur le chiffre que vous venez de donner de 3 millions de chômeurs en Allemagne, moi qui me surprend beaucoup. Pour moi, l'Allemagne est au plein emploi, et depuis des années,
on
tombait même à 3 ou 4% de chômage, c'est-à-dire sous les 5%.
Oui, mais la situation...
C'est ce que j'appelle du plein emploi, moi, pardon, hein, chez les économistes.
C'est une situation complètement intenable. Hein. Le marché de travail n'en est pas un. Hein,
c'est un marché comme les autres.
C'est l'organisation, l'apaisement des chômeurs à longue durée. Les réformes dont vous avez parlé ont été révisées par la coalition entre libéraux, écologistes et sociaux-démocrates. C'est-à-dire le principe que quelqu'un qui touche des subsides doit déclarer également ses autres revenus, et notamment son patrimoine, a été très largement relativisé. Et le soi-disant Bürgergeld, Madame Teresa, ce que ça veut dire, c'est-à-dire le soutien sans condition aux citoyens qui sont dans le besoin, a été un tout petit peu réduit, mais au fond, le système continue. Et la majorité des Allemands s'opposent à ce système, hein, parce que chez le boulanger, dans le restaurant, dans le commerce en général, on a du mal à trouver des employés motivés.
D'accord. Donc en gros, si les gens ne veulent pas travailler, parce qu'en fait ils sont paresseux, ils ne veulent pas bosser.
Non, c'est pas une équation.
D'accord. Bon, très bien. Bah, écoutez, au moins le problème est réglé. Donc les Allemands sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Ok. Bah, on a compris maintenant.
Ouais. Bon. Il y a pas de souci. Revenons en France avec une dernière question.
Excuse cette excursion.
Si on revient au coût du travail en France, est-ce qu'il est trop élevé en France? Donc est-ce qu'il y a un risque? Et deux, on parlait quand même du modèle social, c'est la moitié des dépenses publiques, Frédéric Farah, donc c'est un modèle qui pèse de plus en plus, et sur un nombre qui risque de se restreindre d'actifs, puisqu'il repose sur le travail, et uniquement sur le travail.
Ouais,
donc est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens pour financer ce modèle social?
Alors,
est-ce qu'il faut mettre, très clairement, une TVA sociale en France, Sylvie Matera?
Alors, donc, d'une manière générale, moi je suis, j'aime pas du tout les situations radicales, d'un côté ou de l'autre, et donc vaut mieux avoir une attitude plutôt pondérée. Je trouve que c'est vrai que l'État social, c'est quand même un marqueur de l'Europe démocratique, et donc c'est comme ça. Maintenant, il y a certains pays où il y a eu des excès. Je dois dire que la France est dans une situation par rapport à ses partenaires européens où la dépense sociale est très importante. importante. Oui. Il y a peut-être effectivement à regarder de plus près pour voir garder son efficacité.
On peut certainement optimiser.
On est dans un pays où la dépense publique est parmi les plus importantes, sinon la plus importante d'Europe actuellement, et où les citoyens ne sont pas satisfaits des services publics. Donc ça pose quand même question quand on a une grande dépense publique très importante et que le service qui est produit n'est pas satisfaisant. Donc là, je pense qu'il faut quand même regarder son efficacité. Donc et quand on regarde, sans revenir sur le caractéristique de l'Europe sociale, oui, il faut quand même faire attention à avoir une certaine homogénéité au sein des certains pays européens, au sein des pays européens. Et c'est vrai que la France a eu un décalage ces derniers temps serait bon, à mon avis, de regarder pour aligner mieux les conditions de compétitivité françaises par rapport à nos partenaires européens.
Oui. Est-ce qu'une TVA sociale aiderait à ça, Frédéric Farr?
En gros, la TVA sociale...
On peut peut-être rappeler ce que serait une TVA sociale.
C'est-à-dire, je vais revenir sur... En fait, c'est TVA sociale, juste un mot avant de la définir, c'est que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, avant d'oublier, il faut pas oublier que depuis, et la TVA sociale s'inscrit dans cette dynamique, depuis la fin des années 80, on assiste à une fiscalisation de la protection sociale.
Oui, oui, exact.
C'est une fiscalisation, ouais, de la protection sociale avec la montée en charge de la CSG.
Exactement.
Donc, voilà, la CSG, etc. Donc aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que notre système tel qu'il avait été pensé au sortir de la guerre reposait sur le travail. Le problème dans une population qui vieillit, aujourd'hui, les conditions n'étant pas les mêmes, puisqu'aujourd'hui, quand ce système est pensé, le capital n'est pas mobile. C'est très important. Et quand il va devenir mobile à partir des années 80, bah évidemment, on n'est plus dans le même rapport capital-travail. Donc par conséquent, on s'est dit, tout ne peut pas reposer sur le travail, et Michel Rocard nous a proposé la CSG. Et donc aujourd'hui, la part qui revient à la fiscalisation de la protection sociale ne cesse d'augmenter, oui, même si les cotisations restent majoritaires dans le financement. Mais donc, et puis c'est ajouté, et c'est là comme ça que je veux introduire la TVA sociale, le fait qu'il y avait un autre joujou dans notre politique économique qui n'existe plus, qu'on a utilisé à tort ou raison, on pourrait en débattre longtemps, qui était la dévaluation monétaire.
Oui.
Donc, la dévaluation monétaire a disparu. Donc, on s'est dit, un instrument en moins. Que fait-on? On a compris que quelle est l'obsession désormais de toutes nos politiques, et qui doit tout faire pour le meilleur et souvent pour le pire, la fiscalité. La fiscalité est devenue l'obsession française. C'est-à-dire...
Elle a toujours été. Toutes, oui, les révolutions sont nées de révolutions,
oui,
fiscales
mais
en France.
Mais c'est-à-dire, vieux la sujet. Fiscalité, avec ses niches fiscales, ça doit stimuler l'activité. La fiscalité, en la manipulant, ça doit redonner du pouvoir d'achat.
Ah oui, on lui donne beaucoup d'objectifs.
Doit,
oui,
tout faire. Donc, un machin fait tout. Donc, on s'est dit, puisqu'on a la fiscalité, attaquons sur un jouet made in France, la TVA. Ah, voilà un truc que nous avons fabriqué, et maintenant, on va la colorer.
Qui a fait Florès.
Oui,
qui a fait
Florès.
Invention française, la TVA.
Et qui a eu beaucoup de succès, et on s'est dit, très bien, la TVA sociale, ça va être de la dévaluation déguisée. Bah oui, parce qu'en gros, qui on va faire payer dans la TVA sociale? Qui va devoir payer une TVA supplémentaire? C'est les produits qui vont entrer sur le territoire, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, pas européen, puisqu'entre nous, il n'y a pas de micmac. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on va essayer d'être compétitif en manipulant la TVA pour faire en sorte que c'est encore une fois par cette fiscalité-là qu'on va pouvoir financer la protection sociale pour que ça ne touche pas la compétitivité, ça ne touche pas le travail. Donc, on va encore demander à la TVA et à la fiscalité de faire quelque chose. Et comme on ne peut plus utiliser la monnaie, on fait de la dévaluation fiscale. Voilà ce qu'on fait.
Bon. Est-ce qu'on peut juste remettre les choses un tout petit peu en ordre? Alors, je me souviens très bien de la déclaration de Michel Rocard en introduisant la contribution sociale généralisée.
1991.
Au début, c'était une petite instillation, pas plus.
Oui, oui.
Et depuis, 1%. Vous voyez bien, c'est devenu...
Oui, mais pourquoi?
Écoutez,
pourquoi? Mais je peux vous le dire si vous voulez.
Parce que l'État a besoin de l'argent et il doit absolument, par les régimes sociaux, apaiser certaines populations. Et je pense, nous sommes très proches de l'heure de vérité. Alors, la fiscalisation du problème, nous le connaissons également en Allemagne. Les pensions de retraite ne sont plus du tout garanties par les contributions de la génération qui travaille.
On connaît le problème.
L'État fédéral contribue à cela chaque année sans 30 milliards d'euros. Hein, c'est-à-dire, c'est c'est le contribuable d'aujourd'hui et celui qui paye les cotisations de la retraite d'aujourd'hui et qui finance celles et ceux qui reçoivent une pension. Alors, l'État social est devenu une source d'injustice. Une économie aussi prospère et aussi puissante comme l'Allemagne donne aux cotisants un niveau de par rapport un niveau de pension par rapport à leur dernier salaire de 48%.
C'est pire qu'en France.
Alors c'est nettement au-dessous du moyen en Europe. À partir du moment où on dit et on prêche, on défend coûte que vaille l'État social, ou en disant réformettes, on défend l'injustice.
Non, mais je veux dire.
L'injustice. L'État social est devenu aujourd'hui synonyme d'injustice. Non, et il faut appeler un chat un chat.
Mais alors,
réponse de Frédéric Farr.
J'ai peur que votre chat soit un chien, mais c'est pas grave. Mais donc.
J'adore les chiens.
Mais vous avez raison, moi aussi. Alors ça tombe bien. Non, le problème c'est que si on a ce débat sur l'État social qui nous coûterait cher, c'est-à-dire principalement dans le cas de la France, l'assurance maladie et la retraite.
Oui. Oui, il faut rappeler, quand on parle d'État social, enfin la moitié c'est quand même un quart les retraites, hein, on finance les pensions, et presque, quasiment un quart équivalent aussi, plus de 300 milliards, les dépenses de santé.
Oui, et alors
majoritairement pour nos seniors.
Mais ce que je veux dire par là, si on a ce débat aussi âpre, c'est parce que au départ c'est une bonne nouvelle. Grâce à l'État social, nous avons gagné en espérance de vie. Nous vivons plus longtemps. Et donc c'est merveilleux. C'est pour cela que nous pouvons nous disputer ce matin, parce que nous allons vivre plus vieux et en meilleure santé. Merci l'État.
Le problème c'est qu'on travaille pas plus vieux. Alors,
ça c'est une autre question
qui vient avec ce modèle.
Et juste une chose, parce que c'est important pour moi l'histoire économique, il faut pas l'oublier. En 1990 en Europe, on accorde enfin la libre circulation des capitaux. Nous sommes d'accord avec ça.
Oui.
Donc à partir de là, vous modifiez logiquement le rapport travail-capital. Parce que qu'est-ce que nous dit l'économie ? L'économie nous dit une chose très simple, c'est sur le facteur moins mobile que porte l'ajustement. Mmh. Donc, quel est le facteur moins mobile ? C'est le travail. Quel est le facteur plus mobile ? C'est le capital. Donc forcément, le travail et arrive à ce moment-là, Rocard, on est dans la même chronologie, il comprend, et en plus, 2 ans après... On signe pour l'euro, c'est-à-dire, etc. Donc on comprend bien que le cadre macroéconomique n'est plus le même. Donc à partir de là, la politique économique qu'on doit engager et les outils qu'on va utiliser ne seront plus jamais les mêmes. Donc on comprend que c'est la fiscalité qui doit agir, parce que si le coût du travail ne cesse de renchérir alors que c'est le facteur le moins mobile... Ben c'est ça le problème.
C'est pourtant ce qui s'est passé, cher Frédéric.
Alors,
il y a un point sur lequel je serais d'accord avec Marcus, c'est qu'on arrive près du point de rupture. Là, maintenant, on a un niveau de prélèvements sociaux qui est très proche de l'insupportable. Et il y a des domaines, c'est vrai que c'est essentiellement lié à la maladie et aux retraites, et il y a des domaines où on peut plus continuer à cotiser, avoir un système de répartition dans un pays où il y a de moins en moins d'actifs qui payent pour les non-actifs. Donc on arrive sans doute proche d'un point de rupture où il faudra trouver d'autres solutions pour financer notamment les retraites. Et pareil, il y a quelque chose dont vous avez parlé de l'immigration tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'on oublie fondamentalement, c'est les problématiques démographiques en Europe. Et pour lesquelles certains pays européens, dont l'Espagne, ont choisi d'avoir une politique migratoire volontariste.
L'Espagne,
parce
l'Italie,
effectivement, vous
l'Allemagne.
Avez raison, il y a certains travaux qui ne trouvent plus de gens qui veulent les faire. Et c'est pour ça, et compte tenu du vieillissement démographique et de la diminution même démographique, je pense que l'immigration, forcément en avoir besoin.
L'immigration motivée par des incitations des systèmes sociaux est très certainement pas l'immigration sollicitée ou désirable ou désirée. Donc, on a besoin d'immigrer.
C'est la question de l'immigration de travail
et de l'immigration pas dans nos pays familial. Pour profiter des systèmes sociaux qui, par exemple, en Allemagne, offrent aux réfugiés même des services de santé gratuits. Donc, ça va faire exploser les systèmes. Ces populations migratoires que vous venez de cerner, n'ont pas une identification avec ni la France ni l'Allemagne. Ils viennent pour profiter de ce système. Point la ligne.
Au début, oui.
Il y a une migration de travail aussi qu'on a pu voir en Espagne ou en Italie.
On a à peu près 1 million de Syriens en Allemagne. 2/3 de ces Syriens, depuis 10 ans, n'ont pas trouvé de travail. Pas la situation pour les médecins syriens. Sans les médecins syriens, les hôpitaux allemands seraient dans une situation assez pénible. Je dirais, les systèmes sociaux que nous nous permettons toujours et qui provoquent plus ou moins tard une rupture, attirent une immigration non pas toujours
Allez,
désirable.
Le mot de la fin, Frédéric.
Voilà, c'est pas une raison de venir en France ou en Allemagne tout simplement pour s'installer, pour s'incruster dans les systèmes sociaux.
Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que la grande crise européenne, c'est la crise démographique, ça c'est évident, c'est la crise centrale, parce qu'effectivement, tout le continent, bah, évidemment, fait face à une crise démographique considérable. Deux, transformer l'immigré en une espèce d'homo economicus qui fait un calcul savant entre je reste chez moi et je vais profiter de la sécurité sociale chez les autres, j'y crois pas cinq minutes, il faudra me le prouver. Mais effectivement, et que l'Europe a besoin d'immigration. On voit même Madame Meloni, je veux dire, qui est un gouvernement, je veux dire, qui est pas de la gauche radicale, à moins que j'ai loupé un truc, quoi. Je veux dire, qui elle-même, derrière son discours, se rend compte que vu la situation du marché italien, n'a pas le choix.
Oui.
C'est-à-dire que il y a une politique, l'Espagne aussi.
Nationaliser 500 000.
Moi, je pense qu'on parle de pragmatisme, de réalisme, il faut regarder les choses en face. Et imaginez que les immigrés arrivent pour piller notre sécurité sociale.
Regardez un petit peu les États-Unis. Les États-Unis ont été toujours un pays d'immigration.
Ah oui, Trump, c'est
Trump. Les immigrés font partie des entrepreneurs de demain. Hein. Ils viennent d'une situation très certainement pas très confortable. Ils se trouvent sur le marché de travail aux États-Unis et on leur donne très peu de choses. Et ils doivent bosser. Point la ligne. Donc, c'est par définition la bonne immigration. Les immigrés qui viennent sur le marché américain sont d'autres immigrés que les immigrés que nous recevons en France ou en Allemagne. Alors donc, nous ne tenons pas en compte, dans la discussion du problème démographique, le changement de culture. Si vous allez un petit peu en province, en France, comme je le fais, avec un scooter de temps en temps, je vois quand même un changement de population, une mutation me laisse pas indifférent, hein, qui me laisse pas.
On s'éloigne un peu des questions économiques. La vraie question économique sur l'immigration est effectivement d'une immigration familiale ou d'une immigration.
Il ne faut pas laisser ce sujet à des représentants d'une politique identitaire.